présenté ce soir par Stanislas Vazak. Bonsoir Stanislas.
Bonsoir. Jean-Paul Dubois, prix Goncourt 2019 pour son dernier roman « Tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon », un livre où l'on retrouve son personnage récurrent Paul, héros mélancolique que nous décrira dans un instant Nathalie Chrome de Télérama. Le prix Renaudot est revenu à Sylvain Tesson, l'écrivain voyageur récompensé pour sa « Panthère des neiges ». Sylvain Tesson qui n'était pas sur la liste des nommés, les explications à venir de Cécile de Kervas-Doué. Les auteurs des violences urbaines de Chanteloup-les-Vignes, une poignée d'imbéciles, il est irresponsable, selon Édouard Philippe. La droite accuse le Premier ministre de minimiser ses violences. Nous verrons cela avec Pierre Neveu. En Irak, les forces de l'ordre tirent à balles réelles sur les manifestants. Déjà 270 morts depuis le début de la contestation. L'analyse de Christian Chesneau. Et puis en Espagne, le roi Felipe VI est à Barcelone aujourd'hui. Une visite royale dénoncée par les indépendantistes catalans. Le reportage de Juliette G. Amélie Nothomb attendra avant de décrocher son premier prix Goncourt. La romancière belge a échoué sur le fil aujourd'hui. 4 voix pour Soif, son dernier roman, contre 6 au lauréat 2019, Jean-Paul Dubois, vainqueur au deuxième tour de scrutin. Jean-Paul Dubois récompensé pour son 22e ouvrage, Tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon. L'histoire d'un homme, Paul Hansen, incarcéré dans une prison québécoise, pour une raison que le lecteur découvrira à la fin du roman. Il partage sa cellule avec un certain Patrick Horton, un Hells Angel décrit comme un monstre touchant d'humanité. L'œuvre de Jean-Paul Dubois repose d'ailleurs sur la mélancolie de ses héros, et notamment Paul, son personnage récurrent. Écoutez à ce sujet Nathalie Chrome, responsable du service livre à Télérama.
Les personnages sont toujours d'une manière ou d'une autre des doubles de l'écrivain. Après, moi je ne le connais pas assez pour dire que je le reconnais. Mais je pense que le fait que ce personnage, même s'il a une biographie complètement différente de livre en livre, néanmoins, on reconnaît quelque chose de sa vision du monde, de sa façon d'être au monde en général, d'y être plutôt mal à l'aise, d'y être plutôt un outsider, d'être plutôt un peu largué comme ça, ou largué volontaire, qui fait que effectivement c'est tellement le personnage de Dubois, ce Paul à la fois changeant et toujours un peu le même. Il y a sans doute une proximité avec Jean-Paul Dubois. D'ailleurs, on voit bien que il a aussi écrit des livres de journaliste, entre guillemets, notamment de textes, beaucoup autour des États-Unis, puisqu'il a beaucoup travaillé comme journaliste aux États-Unis. Ses reportages ont aussi cette voix-là. Donc, effectivement, il n'y a quand même pas de grand hiatus, je pense. Je trouve que cette voix, elle a la faculté à la fois d'être très lucide sur l'expérience humaine, on va dire, donc qu'est-ce que c'est le métier de vivre, et en même temps, étrangement, d'être très consolatrice, quoi. Il y a quelque chose de très empathique et quelque chose de très doux dans la mélancolie et le désenchantement de Jean-Paul Dubois.
Nathalie Chrome du journal Télérama répondait à Florence Turme. Notez que Jean-Paul Dubois, prix Goncourt 2019, sera l'invité de Guillaume Erner demain dans les matins de France Culture. Le deuxième lauréat du jour s'appelle Sylvain Tesson. L'écrivain voyageur obtient le prix Renaudot pour son dernier livre, La Panthère des neiges, qui raconte la quête de cet animal mythique des hauteurs du Tibet. Cécile de Kervas-Doué, bonsoir.
Bonsoir.
Sylvain Tesson décroche le Renaudot 2019 alors qu'il ne figurait pas sur la liste des écrivains nommés pour le prix.
Oui, effectivement, Sylvain Tesson ne figurait sur aucune liste de sélection de ce prix Renaudot, ni les préparatoires du printemps, ni celles qui font suite aux grandes discussions du jury au mois de septembre. Mais c'est loin d'être la première fois que ça arrive. En 2007, l'attribution du prix Renaudot à Daniel Pénac pour Chagrin d'école chez Gallimard avait déjà soulevé une polémique parce qu'il n'apparaissait dans aucune liste lui non plus. À l'époque, l'un des membres du jury, François-Olivier Gisberg, avait été accusé par l'un des auteurs en liste d'avoir manipulé les délibérations du jury. Plus récemment encore, en 2012, Notre-Dame du Nil, l'ouvrage de la Rwandaise Scholastique Mukasonga, avait lui été primé aussi alors qu'il n'apparaissait plus dans les dernière liste. L'année dernière encore, Valérie Manteau, avec Le Sillon, publié au Tripode, recevait le prix Renaudot alors que son livre avait disparu de la dernière liste prévue pour la sélection. Donc, ça arrive à chaque fois, face à un blocage. Quand nous n'arrivons pas à nous mettre d'accord, me confiait cet après-midi au téléphone un des 10 membres du jury Renaudot, et il continue. Pour l'ouvrage de Sylvain Tesson, publié seulement le 10 octobre dernier, 2 membres du jury ont sorti ce nom lors de nos réunions et lors du vote sur papier, eh bien, c'est lui qui a finalement gagné. C'est tout. Quant à la question de l'influence et de l'intimidation que pourraient exercer quelques grands éditeurs, le jury répond par la négative. Dans les années 80, dans les années 90, c'est vrai, oui, que les prix littéraires, c'était de la combine avec des préfaces surcotées, des avaloirs gonflés, dit-il en précisant qu'au Goncourt, un Renaudot, eh bien, ça peut rapporter effectivement beaucoup d'argent aux maisons d'édition. Mais il avance aussi que depuis l'arrivée de Bernard Pivot au Goncourt en 2014, eh bien, il y a eu une forme de moralisation de ces prix. Lui, en tout cas, assure n'avoir jamais reçu un coup de fil qui viserait à l'influencer. Et il conclut, le seul procès que l'on puisse faire au prix littéraire aujourd'hui, c'est donc celui du bon ou du mauvais goût.
Cécile de Kervas-Douai, merci. Olivia Gesbert avait reçu Sylvain Tesson dans la Grande Table le 25 octobre dernier, émission que vous pouvez retrouver bien sûr sur franceculture.fr. Une petite bande d'imbéciles, voilà comment Édouard Philippe qualifie les auteurs des violences urbaines de ce week-end à Chanteloup-les-Vignes dans les Yvelines. Le Premier ministre qui a fait ce commentaire ce matin en Seine-Saint-Denis en donnant le coup d'envoi du chantier du futur village olympique de Paris 2024. On notera que les imbéciles en question ont tout de même détruit par le feu un chapiteau de cirque, emblème de la politique culturelle de la ville de Chanteloup, montant des dégâts 800 000 euros. Pierre Neveu, bonsoir.
Bonsoir.
Édouard Philippe semble relativiser l'ampleur des violences urbaines de Chanteloup, un discours critiqué par la droite, Pierre.
Et pour le Premier ministre, les tensions de ces derniers jours à Chanteloup-les-Vignes sont la conséquence des opérations de police menées contre les réseaux de trafiquants, mais le message de fermeté qu'il adresse aux auteurs de ces violences, une trentaine, une cinquantaine de jeunes gens, eh bien, ce message de fermeté s'est dilué aujourd'hui dans ses mots.
En vérité, il s'agit d'une petite bande d'imbéciles et d'irresponsables qui pensent que tout casser est une façon de faire avancer les choses.
Alors pour le sénateur républicain Bruno Retailleau, les incendiaires de Chanteloup ne sont pas des imbéciles irresponsables mais des criminels qui veulent affaiblir la République. Il exige des réponses politiques et pénales. Au Rassemblement national, Jordan Bardella demande au gouvernement de sortir de l'angélisme pour mettre fin au trafic en tout genre dans les quartiers. La reconquête de ces territoires, c'est également une aspiration de la gauche, PCF, France Insoumise, qui demande au gouvernement de donner les moyens aux policiers pour démanteler les trafics. Alors, après ces nuits de violence en région Île-de-France, il est un avertissement qui résonne particulièrement aujourd'hui. C'était l'an dernier, écoutez bien, le jour de son départ à Beauvau, Gérard Collomb s'adressait en ces termes au chef du gouvernement, Édouard Philippe.
Monsieur le Premier ministre, si j'ai un message à faire passer, c'est que la situation est très dégradée. Et le terme de reconquête républicaine prend dans ces quartiers tout son sens. Parce que oui, aujourd'hui, c'est plutôt la loi du plus fort qui s'impose, des narcotrafiquants, des islamistes radicaux qui a pris la place de la République.
Alors pour lutter contre l'économie souterraine, les trafics de stupéfiants, le gouvernement a déployé une police de sécurité du quotidien dans une quarantaine de quartiers, insuffisant pour certains qui regrettent l'abandon pur et simple du plan Borloo pour les banlieues en mai 2018, même si certaines préconisations de ce plan sont depuis mises en œuvre, comme des chantiers de rénovation urbaine ou encore des places en crèche dans des quartiers prioritaires.
Pierre Neveu, merci. Le gouvernement s'est félicité aujourd'hui de sa politique de scolarisation des enfants handicapés. Avec ce chiffre, 87% des élèves en situation de handicap sont à temps plein à l'école, chiffre vanté par le ministre de l'Éducation Jean-Michel Blanquer et la secrétaire d'État aux personnes handicapées Sophie Cluzel. Sonia Princey, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes au ministère de l'Éducation où Jean-Michel Blanquer dresse en ce moment un premier bilan de ce qu'il appelle l'école inclusive.
Oui, un bilan très positif. 361 000 élèves handicapés sont scolarisés en milieu ordinaire depuis septembre. C'est 23 000 de plus que l'an dernier. 87% le sont à temps plein. Il reste 13% d'enfants qui ne fréquentent l'école que quelques heures par semaine. Et 4% ne sont pas du tout scolarisés. C'est deux fois moins que l'an dernier. Une amélioration à signaler. Les familles n'ont plus à renouveler leur demande chaque année. L'élève est scolarisé pour un cycle de 3 ans. Une dynamique est enclenchée, explique le ministre, même s'il reconnaît qu'il reste beaucoup de progrès à faire. Sur les contrats des AESH, les accompagnants d'élèves en situation de handicap, il affirme que 83% ont désormais des contrats de 3 ans. Auparavant, c'était des contrats aidés plus précaires. Mais il concède des difficultés de paiement dans 2 académies. Des AESH n'ont pas reçu leur salaire en totalité. Des difficultés de recrutement aussi, en particulier en Île-de-France, où ces emplois à temps partiel, pour la plupart, sont très mal payés et peu attractifs. Ce ce qui fait dire aux associations qui participaient au comité de suivi cet après-midi que le bilan est mitigé. Elles réclament des améliorations pour le statut des AESH et pour la gestion des PIAL, les pôles inclusifs localisés qui étaient censés faciliter la répartition des moyens mais qui peuvent parfois conduire à une mutualisation des prises en charge. Plusieurs élèves sont aidés par un même AESH alors qu'un accompagnement individualisé serait beaucoup plus bénéfique.
Merci Sonia Princé en direct du ministère de l'Éducation nationale avec Romain Lucquens pour les moyens techniques. C'est une nouvelle escalade dans la contestation populaire en Irak. Les forces irakiennes ont tiré à balles réelles aujourd'hui sur des manifestants à Bagdad. Il y a une dizaine de blessés selon un bilan provisoire. La foule avançait vers le siège de la télévision d'État. La nuit dernière à Karbala, les forces de l'ordre avaient tué 4 personnes qui tentaient d'incendier le consulat iranien dans la ville sainte. Christian Chéneau, bonsoir.
Bonsoir.
Le gouvernement irakien intensifie la répression et le bilan est lourd depuis le début de la mobilisation. Le 1er octobre, environ 270 morts.
Oui, la mobilisation populaire ne faiblit pas, la répression non plus, et toujours pas la moindre sortie de crise en vue. Au moins 5 manifestants ont encore été tués aujourd'hui quand les forces de sécurité ont ouvert le feu sur un groupe de contestateurs réunis près d'un pont de Bagdad. Des sources médicales et sécuritaires affirment que les victimes ont été touchées par des balles en caoutchouc et des gaz lacrymogènes. Les ONG, elles dénoncent l'utilisation de grenades brise-crâne. La répression touche aussi Internet. Au moins 3 Irakiens ont été arrêtés pour avoir posté des messages de solidarité avec la contestation. Une campagne d'intimidation a été lancée par des hommes armés et en uniforme. Des médias ont été attaqués, des blogueurs et des militants enlevés, ce qui n'empêche pas le mouvement de protestation de s'élargir. Les syndicats irakiens ont ainsi appelé à la grève générale. Impuissant à répondre à la colère des Irakiens, le Premier ministre Adel Abdelmahdi s'est dit prêt à démissionner si on lui trouvait un successeur. Le chef du gouvernement a également appelé les manifestants à suspendre leur contestation vu le coût financier porté à l'économie du pays qui se chiffre, selon lui, en milliards de dollars. La rue irakienne, elle, voit surtout le coût humain, vous l'avez dit, plus de 270 morts depuis le 1er octobre, date du début des manifestations.
Christian Chéneau, merci. En Espagne, à 6 jours des élections législatives, le roi Felipe VI est en Catalogne. Le monarque espagnol est arrivé hier soir avec sa femme et ses 2 filles. Il participe en ce moment à la remise des prix Princesse de Gérone qui récompense des scientifiques ou des artistes impliqués dans la société. Mais au-delà de l'aspect protocolaire, cette visite royale a bien sûr une dimension politique. Les séparatistes catalans rejettent la monarchie espagnole, eux qui cherchent à instaurer une république de Catalogne. Ils manifesteront ce soir à Barcelone. Le reportage sur place de Juliette G.
Faire le plus de bruit possible, vous tentez de boycotter la visite du roi. C'est le principe de la cacerolada à laquelle s'adonnent les manifestants catalans dans plusieurs points de rassemblement à Barcelone. Pour Nuria, étudiante catalane abolitionniste, le monarque ne devrait tout simplement plus venir ici.
Nous ne devrions plus avoir de roi. On est au 21e siècle et la monarchie est une insulte pour le peuple. Faire cette visite 5 jours avant les élections, c'est assurément une provocation. Ils veulent qu'on sorte dans la rue, que toutes les revendications se mélangent et qu'on passe encore pour des gens violents, alors qu'on veut juste défendre nos droits.
Edgar est surtout déçu de ces apparitions de façade, selon lui, de la famille royale. Il préférerait que le roi s'implique dans la résolution de la crise catalane.
Quand la famille royale vient, elle vient entourée de policiers pour ne pas voir la réalité de la rue. C'est pour se montrer, pas pour régler les problèmes de la société. Je serais ravi que le roi s'asseye à une table avec le président du gouvernement catalan et la société civile pour trouver un accord et une solution à la crise.
C'est dans ce contexte tendu que la princesse héritière Léonore doit donner son premier discours en Catalogne. 3 manifestations sont convoquées ce soir par les Comité de défense de la République, 4500 policiers et 250 agents anti-émeutes sont sur place pour assurer la sécurité du roi.
Juliette G, correspondante à Barcelone. En Roumanie, le gouvernement minoritaire présenté par le libéral Ludovic Orban a obtenu aujourd'hui la confiance du Parlement, ce qui met fin à une crise politique qui retardait la formation de la nouvelle Commission européenne. Le nouveau cabinet a été entériné de justesse avec 7 voix de plus que le minimum de 233 votes nécessaires. Il succède au gouvernement roumain renversé le 10 octobre des sociaux-démocrates majoritaires au Parlement. Cette sortie de crise va permettre la désignation d'un candidat roumain au poste de commissaire européen. Venons-en maintenant à la visite d'Emmanuel Macron en Chine. Avec cette annonce du président français tout à l'heure à Shanghai, la Chine et l'Union européenne signeront mercredi un accord sur les IGP, les indications géographiques protégées. Emmanuel Macron qui joue la carte de l'UE pour peser face à la puissance économique chinoise. Le chef de l'État s'en est expliqué lors de sa rencontre avec des patrons français et allemands. Le reportage de Dominique André à Shanghai.
C'est une réunion inédite qui s'est tenue ce soir à Shanghai avec Emmanuel Macron, le commissaire européen Phil Hogan, des entreprises françaises et allemandes. L'objectif était d'évoquer le climat des affaires difficile en Chine pour les entreprises étrangères, mais au-delà, le message à tous était « il faut jouer européen ». L'annonce de l'accord sino-européen sur les indications géographiques protégées, qui estampille par exemple le vin de Bourgogne et les nouilles chinoises Longkofenshe, est une première étape dans la stratégie européenne, analyse l'ancien ministre socialiste Jean-Marie Le Guen, qui accompagne le chef de l'État en Chine.
Je crois que c'est l'apport spécifique d'Emmanuel Macron dans la discussion entre la France et la Chine, ça a été d'européaniser en quelque sorte notre position. En tant qu'Européens, nous pesons plus vis-à-vis de la Chine. Et puis c'est bien aussi que l'Europe parle d'une seule voix sur les grandes questions de souveraineté internationale. Et on est en plein dans le débat entre les États-Unis, la Chine, l'Europe. L'Europe parle d'une voix, notamment avec Emmanuel Macron.
C'est un signal très fort pour l'Union européenne et la Chine. J'espère que nous aurons marqué un premier point qui en appellera d'autres, a déclaré le commissaire européen Phil Hogan, qui s'exprimait ce soir aux côtés d'Emmanuel Macron.
Dominique André, correspondante de Radio France en Chine. L'Union européenne qui s'intéresse de très près à deux géants français de la distribution avec cette question. Casino et Intermarché ont-ils violé les règles de concurrence de l'UE? La Commission a décidé d'ouvrir une enquête sur les deux entreprises afin de déterminer si leur rapprochement entre 2014 et 2018 s'est fait aux dépens des consommateurs. À Bruxelles, les précisions d'Angélique Boin.
Casino, ce sont les supermarchés du même nom, les Franprix, Leader Price ou encore Monoprix. En 2014, ce mastodonte avait créé une centrale d'achat commune avec l'autre géant français, Intermarché. Leur objectif, acheter en commun à des fournisseurs de plus gros volumes de produits alimentaires ou d'hygiène pour en faire baisser le prix. Ces alliances sont de plus en plus courantes dans ce secteur de la grande distribution et peuvent tout à fait avoir un effet positif, souligne le communiqué de la Commission européenne. Mais à une condition, que ces avantages soient bien répercutés dans le caddie des consommateurs. Or, ces rapprochements entre deux groupes sont parfois utilisés pour se mettre d'accord sur une politique de prix ou bien sur l'organisation de leur réseau de magasins au détriment cette fois des clients. En février 2017 et en mai 2019, le gendarme européen de la concurrence avait effectué des contrôles inopinés dans les locaux de Casino et d'Intermarché. L'enquête ouverte formellement aujourd'hui devra déterminer s'il y a eu ou non une entente qui aurait faussé le jeu de la concurrence.
Angélique Boin, notre correspondante à Bruxelles. Économie toujours, avec la plus grosse introduction boursière de l'histoire. À partir d'aujourd'hui, le géant pétrolier saoudien Aramco ouvre son capital à hauteur de 5%. Opération censée lui rapporter 100 milliards de dollars. Une manne financière qui doit lui permettre de diversifier son économie pour être à l'avenir moins dépendant de son or noir. On parle notamment du secteur des mines, de la défense et du tourisme. Mesure qui fait suite au plan stratégique baptisé Arabie Saoudite 2030. Plan mis en place par le prince héritier saoudien Mohamed Ben Salman. Les explications de Francis Perrin. Il est directeur de recherche à l'IRIS et spécialiste de l'énergie.
Il est certain que la diversification d'une économie suppose des capitaux, beaucoup de capitaux, mais l'enjeu clé, ce sera, comme toujours, les ressources humaines. Former des hommes et des femmes sur des années et des années pour les mettre en capacité de pouvoir développer, exploiter, gérer ces secteurs que l'on veut développer. L'Arabie Saoudite, bien sûr, fera appel à des compétences étrangères, mais elle ne tient pas à avoir une main-d'œuvre étrangère trop importante sur son sol, et elle voudra donc faire monter en puissance les capacités des Saoudiens et des Saoudiennes dans les années qui viennent. Cela pose évidemment un certain nombre de problèmes, et notamment le fait que toute une partie de la population a été habituée depuis des dizaines d'années à bénéficier de la rente pétrolière sans forcément avoir besoin d'exercer un travail productif dans le secteur industriel. Et il faut donc quelque part une révolution culturelle. Les Saoudiens ont évidemment les compétences pour le faire, mais il faut expliquer que l'ère dans laquelle le pétrole pouvait permettre de financer à peu près tout le reste de l'économie et qu'on n'avait pas besoin de développer un certain nombre de compétences parce qu'on pouvait tout acheter à l'extérieur. Cette ère est en train de se terminer. Elle ne va pas se terminer demain ou après-demain. Ça prendra un peu plus de temps, mais il faudra beaucoup plus que de l'argent.
Francis Perrin de l'IRIS, l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques, il répondait à Hakim Kasmi. Le temps demain restera instable sur la majeure partie du territoire. Pluie et vent au programme de l'Aquitaine aux Alpes avec de la neige en montagne. Ailleurs, le ciel sera variable. Les températures minimales seront comprises entre 6 et 15 degrés du nord à la Méditerranée. Les maximales évolueront entre 11 et 21 degrés. 18h, presque 20 minutes sur France Culture. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec Brice Garcia. We'll be right back.